Bien, nous pourrons reprendre, et grâce à la question de monsieur qui pouvait créer une petite confusion, les deux Élisabeth sont très différentes dans cette première partie de l'exposé, puisqu'il s'agit d'une part d'Élisabeth baptisée dans la pièce de Shakespeare et dans la réalité historique en 1533, et qui deviendra la reine Élisabeth Ière, et d'autre part l'autre Élisabeth, qui n'a pas un rôle très important, mais qui est simplement un jeu d'écho, est la fille du roi qui règne au moment de la pièce, et qui est la fille du roi Jacques Ier qui a succédé à Élisabeth d'Angleterre. Et c'est ce qui permet à Élisabeth Ière, c'est ce qui permet du coup à Shakespeare de mettre dans la bouche de Cranmer cette double prophétie annonçant le règne d'Élisabeth Ière et le règne de Jacques Ier comme un phénix renaissant de ses cendres, père d'une autre Élisabeth dont on attend évidemment la même contribution à la stabilité de la dynastie Tudor. Alors, si on entre dans la pièce, d'abord commençons avec Shakespeare. Une question intéressante est évidemment celle de All is True. Pourquoi la pièce avait ce titre dans la lettre de Sir Andrew Wotton ? Est-ce que c'était un premier titre de la pièce ? Est-ce que c'était à l'intérieur sur des affiches ? Elle était ainsi désignée ? Ou est-ce que c'était en rapport avec certains des passages de la pièce? On en a vu un où la notion de vérité est scande, la prophétie de Cranmer. Il y a donc un prologue dans la pièce qui, généralement, n'est pas attribué à Shakespeare, mais qui commence ainsi. C'est comme un personnage qui s'appelle le prologue, qui vient sur la scène. « Je ne viens plus vous faire rire. » Là, ce sont des choses au fond graves et grandioses, belles, dignes et tristes, pleines de majesté et de malheur, de nobles scènes poussant aux pleurs que nous présentons maintenant. Ceux qui savent ce qu'est pitié pourront, s'ils le veulent, se lamenter. Le sujet le méritera. Ceux qui dépensent cette fois leurs sous dans l'espoir d'un récit digne de foi ont une chance d'y trouver aussi la vérité. Ceux qui viennent pour une ou deux grandes scènes et tiennent alors une pièce pour acceptable, s'ils sont sages, en auront pour leur shilling, je m'y engage, en deux petites heures, sans prix. Donc on voit qu'il y a trois registres de réception de la pièce qui sont évoqués. Le spectacle, et ils seront satisfaits par cette série de processions que j'ai mentionnées. Ceux qui viennent pour la vérité du théâtre, et ceux qui viennent pour l'émotion que peut susciter le malheur et donc d'exercer la pitié. Ce triple registre, on le retrouve évidemment dans la construction de la pièce. Je laisse de côté le premier que j'ai évoqué, c'est-à-dire ici la question du spectacle dans la pièce, qui est une série de trois processions dans la pièce, mais pas seulement comme les seuls spectacles. Il y a aussi le masque que j'évoquais, c'est-à-dire une réception chez le cardinal Wolsey, qui est le conseiller du roi. Et puis, d'autre part, il y a au moment que, juste avant sa mort, Catherine, la reine d'Aragon, a une vision angélique et qui, là encore, donne lieu à un spectacle dans le spectacle, ce que l'on appelait dans l'Angleterre des 16e, 17e, « dumb show », c'est-à-dire une représentation muette d'une action. Donc, pour ceux qui aiment le spectacle, ils en auront pour leur argent. Et comme vous le voyez, avec cette mention qui nous avait intéressé l'an dernier, en deux heures. Donc la durée acceptable d'un spectacle, d'une pièce, est deux heures. Ce qui fait qu'on peut ouvrir une discussion sur des textes publiés qui sont souvent plus longs, si on les disait, que les deux heures qui sont assignées au spectacle. Et d'ailleurs, deux heures, c'est aussi la durée de ce séminaire. Donc là, pour ceux qui ont le cœur sensible et qui sont aptes à la pitié, qu'est-ce qui va les toucher? C'est un premier traitement du temps, c'est-à-dire, comme le dit le prologue, voyez comment le malheur ou leur puissance se précipitent, c'est-à-dire cette alternance entre des gloires et des chutes. Et ce modèle est répété trois fois, puisqu'il vaut bien sûr pour Catherine d'Aragon, que j'ai évoquée, reine et ensuite divorcée contre son gré. Et il vaut avant, dans le premier acte de la pièce, pour un noble, Buckingham, qui est arrêté, puis jugé et décapité à la première scène du deuxième acte pour haute trahison. En fait, historiquement, ce Buckingham prétendait descendre d'un des fils, du dernier fils d'Édouard III, donc d'avoir aussi du sang royal et une possible prétention au trône. Dans les deux cas, la chute de Catherine et la chute de Buckingham, la responsabilité est imputée au même individu, le cardinal Wolsey, qui était le conseiller politique du roi, qui détestait Buckingham, qui s'était opposé à sa politique, et qui aussi détestait Catherine, qui est supposée être hostile à ses ambitions pour devenir pape. Et donc la machination de Wolsey est la forme humaine de la chute des deux personnages. Buckingham accusé à partir de témoignages qu'on peut penser comme de faux témoignages de son intendant, et Catherine mise en difficulté par l'insinuation par Wolsey de la nullité du premier mariage. Mais ce modèle de gloire et de chute se répète pour lui-même, comme on le voit dans la deuxième scène du troisième acte, où il est victime de lui-même en remettant un paquet de papiers, de lettres au roi. Il a oublié d'en extraire deux documents qui l'accablent, l'un qui est la liste, the schedule, de ses biens et de ses dépenses considérables pour acheter des voix ou des soutiens pour devenir pape, et donc un premier ministre plus riche que le roi lui-même. Et d'autre part, il avait écrit une lettre au pape parce que tout en ayant insinué que le premier mariage du roi pouvait être illégitime, il était devenu hostile à son annulation éventuelle par le pape, par hostilité à Anne Boleyn, qui représentait évidemment le parti luthérien, protestant, la secte réformée. Et donc il avait écrit au pape pour faire retarder ou faire disparaître la demande d'annulation du mariage. Et ces deux papiers, par inadvertance, là ici Shakespeare utilise une histoire mais qui était racontée pour quelqu'un d'autre qui avait été victime de sa négligence et qui avait donné des papiers compromettants à celui qui n'aurait pas dû les lire, crée la chute de Wolsey. Et on voit qu'on est là dans un modèle répétitif qui est ce modèle du temps de la fortune. Le temps qui est marqué à la fois par l'accès aux plus hautes fonctions, reine, grand aristocrate, premier conseiller du roi, et qui est suivi par une chute. Et la répétition de cette sorte de régime d'historicité qui est une sorte d'inexorable cycle qui s'impose aux êtres entraîne dans la pièce à la fois toute une série de métaphores et qui joue en général sur l'opposition entre le soleil de la gloire et l'ombre de la chute. Et c'est le cas de Buckingham, c'est le cas de Wolsey, lorsqu'ils sont confrontés à leur propre perte. Et d'autre part, c'est la possibilité d'introduire à l'intérieur de la pièce ce qui a comme écho ou correspondant, c'est ce qu'on appelle la littérature de l'échafaud, les dernières paroles des condamnés à mort et qui sont à la fois des reconnaissances de leur faute, leur demande de pardon et une leçon morale. Et ce genre, qui a des formes extrêmement populaires dans les littératures de colportage, par exemple, se trouve ici mis sur le théâtre dramatiquement. Dans le cas de Buckingham, cette logique du pardon et de l'avertissement. Et celle-ci, il pardonne Sir Thomas Lovell, qui était le gardien de la prison du Temple où il avait été emprisonné. « Sir Thomas Lovell, je vous pardonne pleinement, aussi pleinement que je voudrais être pardonné. » C'est donc un pardon que l'on donne et un pardon que l'on espère recevoir. « Je pardonne à tous, quel que soit le nombre des offenses que j'ai subies, je fais la paix. Aucune noirceur n'entachera ma tombe. Transmettez mon souvenir à sa grâce, c'est-à-dire au roi. Et s'il parle de Buckingham, dites-lui, s'il vous plaît, l'avoir vu en route vers le ciel. Mes serments et mes prières sont toujours pour le roi, et, jusqu'à ce que mon âme me quitte, appelleront sur lui les bénédictions. Puisse-t-il vivre plus d'années que j'ai le temps d'en compter, qu'il règne à jamais aimant et bien aimé, et quand la vieillesse l'amènera à sa fin, puisse la bonté et lui emplir le même tombeau. » Donc la demande de pardon, l'octroi du pardon, la paix avec soi-même, et ici, la leçon qu'il donne avant de mourir est une leçon qu'il dirige à son secrétaire et qui porte sur le fait que s'il a été trahi par un intendant, c'est parce que l'excès de libéralité rend impossible la réciprocité et ne peut qu'entraîner la détestation. Dans le cas de Wolsey, c'est aussi un accès à une sorte de paix de l'âme, de renoncement à ce qu'il a perdu, c'est-à-dire l'ambition. Et c'est là l'avertissement qu'il donne à son secrétaire, Cromwell, pas le Cromwell de la Révolution, un autre Cromwell, Thomas Cromwell, qui va devenir ensuite secrétaire, puis ensuite premier conseiller du roi. C'est la même logique de renoncement, d'apaisement, de pardon donné ou reçu, et finalement d'avertissement contre, dans ce cas-là, l'ambition. « Si j'avais mis à servir mon Dieu, fût-ce la moitié du zèle mis à servir mon roi, il ne m'aurait pas dans ma vieillesse livré nu à mes ennemis. » Et dans le cas de Catherine, le pardon est un peu plus complexe dans la mesure où elle apprend que, juste avant sa propre mort, la mort de son ennemi, Wolsey, qui a été, comme les biens ont été confisqués, il est emprisonné et il meurt après, au moins dans la pièce, lorsqu'il était dans une abbaye où il avait essayé de se réfugier à la Esther. Et la reine trace un portrait un peu noir de Wolsey, son ennemi, en disant que l'ambition ou l'absence de toute pitié l'a perdu, mais son conseiller, Griffith, lui fait remarquer que les êtres sont souvent complexes et que de l'autre côté, Wolsey était un érudit qui était qui dispensait ses largesses. Par exemple, il avait fondé deux collèges, Ipswich et à Oxford, Corpus Christi. Donc, du coup, une sorte de pardon donné à ce personnage, pourtant cause de son malheur. Et après la vision béatifique, un très beau passage dans lequel il y a cette demande faite à sa suivante qui doit porter une lettre au roi. Et la lettre est une lettre d'ailleurs authentique qui est présente dans les chroniques d'Holinshed et dont Shakespeare s'inspire. « Rappelez-moi en toute humilité au souvenir de son Altesse, annoncez que son trop long souci quitte à présent ce monde. Dites-lui que, mourante, je l'ai béni, car je le bénirai. Mes yeux se troublent. Adieu, Monseigneur Griffith. Adieu. Non, patience. » C'est le nom de sa suivante. « Vous ne me quittez pas encore. Je dois me coucher. Appelez-en d'autres. Quand je serai morte, mignonne, que l'on me traite avec honneur, couvrez-moi de fleurs virginales et tout le monde saura qu'épouse je fus chaste jusqu'au tombeau. Embaumez-moi, puis exposez ma dépouille, et bien que reine des fêtes, en reine et fille de roi, enterrez-moi, je ne peux plus. I can no more. » Et c'est la mort de la reine. Et donc on voit qu'il y a, à travers ce premier traitement de la temporalité, c'est-à-dire le cycle inexorable des chutes qui suivent les apogées, cette adresse à la pitié des spectateurs. Mais dans le prologue, on a vu qu'il y avait une deuxième exigence, qui est l'exigence de vérité. All is true, tout est vrai dans cette pièce. Et donc on a là, à la fois, comme dans une tension, une revendication d'authenticité des histoires, et qui peuvent être légitimées, cette revendication, par le fait que les pièces mettent sur le théâtre ce qui est le contenu des chroniques, dans ce cas-là, essentiellement celle de Holinshed, la deuxième édition de 1587, mais que de l'autre côté, on a un travail qui est fondé sur une vérité poétique ou dramatique, et non pas sur une vérité historique ou chronologique. C'est ce que j'avais essayé de montrer dès le premier cours, avec cette allusion plus brève à la révolte de Jacquet dans le second Henri VI de Shakespeare, où il utilise des éléments d'une révolte antérieure, 1381, pour mettre sur la scène la révolte de 1450, et dans les deux cas, de toute façon, en les réécrivant avec cette dimension qui nous avait intéressé, qui était la dimension d'une révolte radicalement hostile à l'écrit, quelles qu'en soient les formes, quels qu'en soient les supports, quels qu'en soient les agents. Dans le cas d'Henri VIII, c'est très subtil, mais il y a toute une série de jeux avec la chronologie, qui vont dans des sens différents. Par exemple, l'exécution de Buckingham a eu lieu en 1521, tout de suite, et c'est le début de la pièce de Shakespeare, après ce moment fastueux qui a été la rencontre du drap d'or entre Henri VIII et François Ier. Donc, Buckingham est accusé et exécuté en 1521, et dans la pièce, son exécution est postérieure aux premières rumeurs sur la demande d'annulation du mariage par le roi, alors que celles-ci n'ont commencé réellement qu'en 1527. D'autre part, Catherine, qui est la reine, va mourir en 1536. Ici, elle meurt avant le baptême d'Élisabeth, qui a lieu en 1533, et elle meurt en même temps que Wolsey, qui a lieu aussi en 1533. Il y a l'annonce de la mort de Wolsey et qui a lieu en 1530. Donc dans la simultanéité entre la mort de Wolsey et la mort de Catherine, il y a un double anachronisme, puisque Wolsey meurt en 1530 et la reine est supposée dans la pièce mourir en 1533, et en fait, dans la réalité, elle meurt en 1536. Donc il y a une sorte de jeu permanent avec le temps, et qui trouve son point culminant dans le dernier acte, qui est un acte, lui, très détaché de la première intrigue, c'est-à-dire la répudiation de la reine, le mariage avec Anne Boleyn, le couronnement d'Anne Boleyn, et, in fine, le baptême d'Élisabeth, et qui est un complot qui avait été ourdi contre Cranmer, l'archevêque de Canterbury, qui était devenu un des conseillers les plus proches du roi, par tous ceux qui, à la cour, avaient des méfiances par rapport à son zèle réformé extrême. Et finalement, il avait été sauvé par le roi qui lui avait assuré sa confiance. Mais dans la pièce, ce complot contre Cranmer, qui date de 1544, est présenté comme antérieur au baptême d'Élisabeth qui a eu lieu en 1533. Donc il y a une extrême liberté par rapport à la chronologie des événements, avec des effets de condensation, des effets d'inversion, soit que des événements soient anticipés, soit que des événements soient retardés. Et donc, du coup, la vérité de la pièce, « All is true », est une vérité qui correspond à une logique dramatique et non pas à l'ordre chronologique des faits ou du récit des faits dans les chroniques. Et il y a sans doute là, par rapport à cela, une deuxième conception du temps. La première, qui était celle liée à la pitié, c'est celle du temps de la fortune, les gloires et les chutes, le soleil et l'ombre. C'est un temps cyclique, c'est un temps inexorable, c'est un temps qui est imposé à tous, c'est pratiquement une loi naturelle. Donc c'est un temps de la répétition des destins, et qui donc sert comme un modèle, un pattern qui peut être indépendant dans sa logique des circonstances particulières, des individus singuliers. Cela devient une sorte de modèle de compréhension historique, et c'est pourquoi trois fois dans la pièce, Shakespeare le réutilise avec les mêmes registres de métaphores et avec les mêmes expressions discursives. Le repentir, le pardon, l'avertissement. Il y a un autre temps qui est ce temps, qui est celui de cette chronologie, qui est le temps des intentions, des désirs, des ambitions, donc du coup des complots, des conjurations. Là, on est sur un registre qui est un temps humain, mais qui est du coup un temps incertain, vulnérable, qui peut entraîner à la fois l'échec et qui peut être vulnérable au hasard. Et ce temps purement humain, qui est le temps des intentions individuelles, des protagonistes, il est en quelque sorte manipulable. Il devient un temps malléable. Et il peut être ployé aux règles ou aux exigences d'une construction dramatique en totale liberté avec la chronologie des faits. Et donc je pense qu'on est là devant une sorte d'enchevêtrement dans la pièce, non seulement de différents rapports à l'histoire et au passé, mais aussi de différentes conceptions du temps. Le temps cyclique de la fortune doit être respecté dans sa structure, et le temps malléable, incertain, humain, des intentions achevées ou blessées, est un temps qui relève d'une logique différente. C'est un temps qui n'a rien d'inexorable. Il peut être manipulé, réarrangé par le dramaturge. Et on pourrait dire d'ailleurs qu'il y aurait un troisième temps dans la pièce, et qui est le temps de Dieu, le temps de la providence. C'est-à-dire ici, le temps d'une volonté divine mystérieuse, indéchiffrable. C'est un temps du mystère, des élections. Et ce temps-là n'est déchiffrable que par des moments exceptionnels, et qui, en général, sont des moments où on est à distance à la fois du cycle de la fortune et des intentions et des consciences des individus. C'est le surgissement de ce temps divin, de ce temps de la providence, dans le rêve, dans la vision, dans une sorte de moment foudroyant de prémonition et du coup aussi dans la prophétie, du moins celle qui sont authentique. Et c'est en quelque sorte cette volonté divine, elle n'est déchiffrable que dans un après, enfin dans un avant qui s'est inscrit dans le moment contemporain, ou bien dans un avant qui est annoncé par le moment contemporain. C'est un temps finalement interdit au commun des mortels, mais qui suppose du coup une sorte d'abandon à la volonté divine et qui n'est aperçu que par les personnages de théâtre ou d'histoire, que dans des moments exceptionnels qui suspendent et la rationalité pauvre des intentions et le rythme inexorable de la fortune. C'est donc un temps qui est d'intrusion d'une volonté extérieur et qui est finalement insaisissable, incontrôlable, en particulier par les puissants, mais que l'écriture poétique ou dramatique peut capter en captant ces moments de césure à l'intérieur de l'inexorabilité des cycles ou dans le flux pitoyable des intentions et des décisions humaines. Et je pense que la puissance de cette pièce, mais aussi peut-être des autres histoires de Shakespeare, tient à ce jeu sur ces trois registres de temporalité qui sont confrontés, entrecroisés, emmêlés dans la pièce. Une allusion du prologue, et j'en termine avec cela pour le Henri VIII, une allusion du prologue, c'était celle « Vous venez plus maintenant ici pour les choses qui vont vous faire rire. » Là, ce sont des choses au fond graves, au grandioses. Et puis, le prologue continue. « Seuls ceux qui passent entendre une pièce drôlatique et salace, a merry body play, s'entrechoquer des boucliers, voir un bouffon en robe longue à ruban jaune, seront déçus. Car, gentils spectateurs, soyez-en sûrs, mêlés à notre vérité pure, fou et bataille serait trahir notre cervelle et l'intention de nous en tenir ici à la vérité en tout. Et en plus, cela vous ferait tous dormir debout, donc par bonté, vous comptiez en cette ville pour le meilleur public et le plus agile, soyez sérieux comme nous le souhaitons. » C'est intéressant parce que plusieurs fois, il est mentionné que le public, ce qui a été traduit par « gentil spectateur », c'est les « gentle hearers », les gens qui écoutent, les gens qui sont sensibles au texte et qui vont comprendre à la fois le lamentable de ces existences broyées par la fortune et d'autre part, qui vont partager cette émotion et cette pitié. Et c'était l'opposition avec ceux qui viennent pour le spectacle. « To see only a show or two ». Et cette tension entre ceux qui viennent pour voir le spectacle et ceux qui viennent pour entendre le texte est une tension fondamentale dans l'écriture dramatique des XVIe, XVIIe siècles, et puis qui est d'ailleurs mobilisée au service de la justification de l'édition des pièces, puisque les « hearers » souvent pouvaient être dérangés, les conditions de la représentation pouvaient rendre le texte plus difficile à saisir dans ses leçons ou ses beautés. Et donc, du coup, la publication devient le véritable « auditory », comme dit une des préfaces, je crois, de Thomas Heywood. Mais « hearer » et « lecteur » sont ceux qui s'attachent au théâtre comme texte, alors que les « viewers » où les spectateurs sont ceux qui s'attachent au théâtre comme performance et qui, dans Henri VIII, sont aussi satisfaits par ce faste pompeux ou ces pompes fastueuses qui leur sont données à voir. Mais l'allusion à ces merry body play est une allusion plus précise dans la mesure où le Henri VIII de Shakespeare et Fletcher n'est pas la première pièce qui se soit vouée à cette histoire. On peut faire une histoire, mais je vais passer rapidement, sur les pièces précédentes, connues ou non par Shakespeare. On voit que dès le début du siècle, en 1601, dans le journal de Henslowe, cet entrepreneur de théâtre que j'évoquais, il paye toute une série d'auteurs pour deux pièces, l'une qui s'appelle « The Rising of Cardinal Wolsey », c'est-à-dire ici les pièces qui montreraient l'ambition de Wolsey, et c'est une pièce payée à Chettle, Munday, Drayton, Smith, et puis aussi c'est une pièce payée en novembre 1601, et préalablement, ce qui aurait été sans doute la seconde partie, mais en fait écrite avant, « The Life of Cardinal Wolsey », est une pièce payée à Chettle et Rowley. Donc, le thème est présent, ce thème ici perçu à travers la grandeur et la chute de ce conseiller du roi. On trouverait aussi plus tard une pièce de Samuel Rowley qui a pour titre « Quand vous me voyez, que vous me connaissez »,« When you see me, you know me », et qui est sans doute la pièce à laquelle fait allusion ce prologue, dans la mesure où c'était bien l'histoire aussi du mariage du roi, et il y a des traces de cette pièce qui peuvent se retrouver dans la pièce de Shakespeare, et seulement là, enfin, dans cette pièce de Rolla et pas dans le texte de la chronique de Holinshed. Donc, il y a sûrement un rapport de connaissance, mais cette pièce était aussi une pièce avec des éléments comiques. Et donc, lorsqu'il est mentionné Mary Bowdy Play, ça peut être une catégorie générique, mais ça peut être aussi une allusion plus précise à cette pièce de Samuel Rowley, qui d'ailleurs avait été aussi réédité en 1613. Donc on a tout un contexte de cette pièce, et ce qui me paraît le plus important, c'est cette appropriation, non pas seulement de l'histoire, comme j'ai dit pour commencer, mais cette appropriation et cet usage poétique, dramatique, de différentes temporalités. Celle des cycles serait un peu comme les régimes d'historicité évoqués par François Hartog, c'est-à-dire un modèle de compréhension du passé. L'histoire, la temporalité qui est celle des individus, de leurs intentions, de leurs rêves, de leurs ambitions, est cette temporalité proprement humaine et qui est à la fois vulnérable et malléable. Et puis, il y a cette temporalité qui englobe les deux premières et qui est la temporalité des volontés indéchiffrables de la toute-puissance divine, c'est la temporalité du mystère, et qui est celle qui peut fonder dans l'existence ou dans une pièce de théâtre ces moments de déchirure du tissu ordinaire du cours des choses, et qui sont ces moments où ce qui va advenir est annoncé, ou bien que ce qui est expliqué. Et ce sont ces moments qui pourraient être ceux du rêve, de la vision et de la prophétie. Alors pour terminer, portons-nous sur le traitement de la même histoire par Calderón, qui lui ne s'appuie pas sur la chronique de Holinshed, mais sur cette pièce, sur cette livre d'histoire du jésuite Ribadeneira, publié en 1588. Il y avait au départ, pour le théâtre espagnol, une double impossibilité, assez paradoxale d'ailleurs. La première, c'est qu'il est impossible de citer des discours hérétiques, même si c'est pour les condamner. Et donc, du coup, pour une raison toute différente, on a, comme chez Shakespeare, une euphémisation de la réforme, puisque jamais le Henri VIII de Calderón ne tient un propos hérétique, même que ça pourrait être l'objet d'une radicale condamnation. Mais c'est la prise de conscience, effectivement, des limites de la censure, lorsque la censure cite pour les condamner les propos hérétiques. Et donc, du coup, il y a un premier obstacle qui explique, entre autres, pas seulement, mais pourquoi la pièce de Calderón déplace l'essentiel de son intrigue sur une intrigue amoureuse, inventant un personnage qui est l'ambassadeur de France et qui s'appelle Carlos ou Charles, qui, depuis qu'il a rencontré Anne Boleyn lorsqu'elle était en France avec son père, qui avait été ambassadeur à Paris, en est éperdument amoureux, et c'est un amour partagé. Anne Boleyn aime ce Carlos, cet ambassadeur de France, et d'une certaine manière l'a abandonné lorsque l'ambition de devenir reine l'a saisie, mais lui a gardé son amour, ce qui est un ressort dramatique dans la pièce, puisque une scène, alors qu'elle est déjà l'épouse de Henri VIII, une scène entre eux deux dans laquelle elle laisse entendre que ce mariage est un mariage d'ambition et qu'elle garde sa passion ou son amour pour lui, est surpris par le roi et va être donnée comme la raison de la répudiation d'Anne Boleyn, et deux amants sont arrêtés et elle est exécutée. Il y a donc une contamination de cette comédia historique par ce que l'on appelle à l'époque aussi les comédiades cap et d'épée, et qui sont les autres, l'autre répertoire de Calderón de la Barca dans les années 1620. La contamination de genre, mais aussi le fait que cette histoire d'amour vient occuper un espace qui ne peut pas être occupé par le traitement de front du schisme d'Angleterre, c'est-à-dire de donner à entendre des discours hérétiques. La deuxième limite, c'est la difficulté d'attribuer au roi, même si c'est le roi d'Angleterre, des actions ou des pulsions qui seraient trop immédiatement charnelles ou des inconduites trop immédiatement liées à cette passion dévorante du roi pour Anne Boleyn. Et du coup, même si l'intrigue amoureuse devient centrale, pour autant, le roi de Calderón, le Henri VIII de Calderón, devient un roi dans un sens plus tragique que celui de Shakespeare, dans la mesure où c'est un roi qui est tourmenté, déchiré par le fait qu'il a à la fois abandonné, répudié la reine Catherine et que d'autre part il a rompu avec Rome et s'est affilié à la réforme protestante. Et toute la fin de la pièce est un roi Henri VIII désespéré, repentant, qui voudrait traversé par le remords. Plusieurs fois, il a l'expression qu'est mal hissé, qu'est-ce que j'ai très mal, combien j'ai mal agi. Mais la faute est irréparable. Et donc, il est impossible de retrouver ce qui a été détruit. Il a un moment même de vouloir retourner à Catherine ou de restaurer ce qui pourrait l'être. Donc c'est un Henri VIII qui ne peut pas être réduit à cette dimension du désir sexuel et de l'inconduite morale, parce que la figure du roi ne le permet pas, quelle qu'elle soit, et quel qu'il soit. Et que donc, mais en même temps, c'est un roi qui, tout en ne pouvant pas prononcer de propos hérétiques sur la scène, est profondément tourmenté par ce qu'il a fait. Alors, on peut prendre pour illustrer cette double contrainte sur l'écriture de Calderón, d'abord le début de la pièce qui commence par un rêve, qui est un rêve du roi surpris par Wolsey, et qui est un rêve dans lequel elle lui apparaît, avant même qu'il l'ait jamais rencontré, Anne Boleyn, et elle lui apparaît comme la femme qui l'oblige à effacer ce qu'il est en train d'écrire. Et ce qu'il est en train d'écrire dans ce rêve, c'est un texte qu'il a déjà écrit, qui est un texte de 1521 et qui était la défense des sept sacrements contre Martin Luther, et en particulier le sacrement de mariage, contre un texte de Luther qui, comme vous le savez, rejetait les sacrements et qui est le texte de 1520, La captivité de Babylone. Dans ce moment-là, le roi, encore jeune Henri VIII, apparaît comme à la fois le roi humaniste, le roi chrétien et le pape Léon X pour ce livre, sans doute écrit en collaboration ou en grande partie par Thomas More, l'a nommé défenseur de la foi. Et comme on le sait, on l'a vu, c'est une révérence totalement absente de ce Henri VIII orthodoxe catholique récusant la réforme dans la pièce, évidemment, de Shakespeare. Le rêve commence ainsi, enfin il ne commence pas, mais il le décrit ainsi à Wolsey. « Écoute, ici commence la plus épouvantable horreur, le prodige le plus fort qui, entre les ombres du sommeil, vint donner corps à mes idées. Donc j'étais là, j'écrivais sur le sacrement de mariage, le destin, vois-tu, lorsque ma tête se fit lourde, mon esprit tomba dans un sommeil à la force duquel j'avais tout juste eu le temps de céder, et je vis entrer par la porte une femme. Ici, mon âme tremble au-dessus de moi. Ma barbe et mes cheveux se hérissent, mon sang se glace, mon cœur bat, ma voix défaille, ma langue devient muette. La femme s'approche de moi. Dans mon trouble, je la regardais, l'observais, je ne pouvais plus écrire. Puis, tout ce que ma main droite écrivait et traçait, ma main gauche l'effaçait à mesure cette femme imaginaire qui tenait lieu de vérité, qui en avait la puissance. Maintenant, je suis éveillé. Je la vois telle qu'elle était. J'en ai gardé tous les détails. L'image m'est restée de celle que j'ai vue tout à l'heure. Et je crois que mon âme dort encore dans la confusion où nous sommes, des frayeurs et catastrophes. Quand l'âme s'endort, tant mieux si elle ne se réveille plus. Donc l'apparition d'Anne Boleyn dans le rêve est celle qui va faire effacer ce qu'il a légitimement écrit, c'est-à-dire une récusation de la réforme. Et cette figure d'un roi qui s'efface lui-même, qui efface ce qu'il a été, c'est-à-dire défenseur de la foi catholique, elle est redoublée par un jeu de scène qui est dans le même début de la pièce, de la comédia, et qui est ce jeu de scène où Boulsès dit que deux lettres sont arrivées, une lettre de Luther et une lettre du pape. Et dans un geste symbolique, Henri VIII s'exclame que Luther tombe à mes pieds et Léon X, le pape, monte à ma tête. Donc il veut mettre la lettre du pape sur sa tête et fouler aux pieds la lettre de Luther. Et comme le dit la Didascalie, voulant jeter la lettre de Luther à ses pieds et mettre celle du pape sur sa tête, il fait le contraire. C'est-à-dire, c'est le redoublement de la main gauche qui effaçait la main droite. Et ici, il y a effectivement la confusion qui va le faire suivre Luther et non pas le pape. Du coup, ça explique les derniers vers de la pièce. Comme très souvent, les comédias se terminent non seulement par un résumé ou un titre. Et là, c'est « Y aquí acaba la comedia del docto ignorante, du docte ignorant Enrique y muerte de Ana Bolena ». Donc le docte ignorant, c'est-à-dire ce souverain qui est tombé dans l'erreur, qui est conscient de l'erreur, mais qui ne peut pas réparer son mal. Du coup, un autre trait tout à fait puissant dans la pièce de Calderón, c'est que c'est le roi lui-même qui énonce les arguments qui vont contre sa volonté de rompre de faire annuler son mariage avec Catherine. Puisque une fois qu'il a retrouvé Anne Boleyn et que donc la personne du rêve est devenue une personne réelle, que celle-ci, manipulée par le Woolsey de Calderón, a accepté par ambition de feindre d'être amoureuse du roi, alors qu'elle reste attachée à son français, à son ambassadeur français, Charles, que Woolsey la manipule parce qu'il y a dans cette pièce une énorme importance donnée aux prophéties et aux prédictions. Et une prédiction qui avait été faite à Woolsey était que una mujer sería mi destrucción. Une femme sera ma destruction. Et cette femme, il l'a identifiée comme Catherine d'Aragon. En fait, ce sera Anne Boleyn. Mais donc, du coup, il manipule Anne Boleyn contre Catherine d'Aragon et il y a toute cette intrigue où elle feint d'être amoureuse du roi pour devenir reine. Mais du coup, dans cette volonté du roi de faire annuler son mariage, il y a une scène assez parallèle à celle dans la pièce de Shakespeare lorsqu'il a convoqué au Blackfriars tout un tribunal pour juger du cas. Ici, le roi, avant même d'avoir réuni ce consistorio, comme dit la pièce, va énoncer les raisons qui font qu'il sait pertinemment qu'il a tort et que la loi naturelle comme la loi chrétienne reconnaissent la légitimité de l'union avec Catherine, c'est-à-dire de l'union avec la femme de son frère. Je n'ignore pas que Woolsey m'a trompé, que je me suis satisfait de sa fausse argumentation, mais c'est que ce feu d'enfer là dans mon cœur fait qu'aveugler ma pensée troublée, nie des vérités et croit des mensonges. Je sais que rien n'empêche, le cas est clair, le mariage entre un frère et la femme de son frère. D'ailleurs, pour répondre au même doute, Judas, le grand patriarche, dit qu'il avait marié son fils avec Tamar, la veuve d'Er, qui était son autre fils. C'est aussi son cadet, le tout fondé sur la loi naturelle et sur l'écriture. puisqu'il était obligé que la femme, après la mort de son époux, et d'autant plus quand elle était sans enfant, fût mariée au frère de celui-ci. Donc, puisque mon union n'allait pas contre le droit écrit et naturel, pour le bien commun, le pape peut, j'en fais confession, telle est la vérité, je n'en doute pas, par la loi ecclésiastique et humaine, l'autoriser. C'est la vérité, c'est une chose claire. Et s'il refuse mon argumentation, le pape est vice-dieu, vice-elios. Il peut tout faire, mais malgré ma confession, mon raisonnement tombe par manque de bon sens. Que Catherine souffre parce que chrétienne, sainte et divine, oui, puisque les cieux veulent aujourd'hui m'abattre. Oui, puisque je suis dans des tourments qui m'envoient ainsi aux ultimes confins de la mort. Catherine, pardonne-moi si j'ôte de tes tempes la couronne pour la mettre sur d'autres, puisque le ciel qui regarde tes malheurs et ton zèle pour ta plus grande gloire dira mon châtiment et ta vengeance. Si tu perds, toi, ta couronne par vertu, une autre pourra la perdre par vanité, lubricité, ambition. Tel fut mon malheur, telle est mon étoile. C'est cette situation très paradoxale où Calderón fait énoncer par le roi à la fois sa condamnation, son malheur et l'impossibilité de toute repentance ou de toute restauration, réparation, et c'est d'autre part le paradoxe qui lui fait énoncer les fondements même sur lesquels le pape et l'Église refusent d'annuler le mariage. Et les allusions ici sont très précises, elles sont plus précises que chez Shakespeare, puisque la première allusion, elle est fondée sur cet épisode de Genèse 38, 6, 10, c'est-à-dire le fils de Judas, qui était le quatrième fils de Jacob, comme épousant sur la vie du patriarche, épousant la femme de son frère décédé. D'autre part, il y a un fondement sur l'Écriture qui renvoie à la loi naturelle. Ici, c'est le Deutéronome 25, 5, 10. Et on peut prendre dans le texte biblique, dans la traduction du XVIIe siècle de Lemaître de Sacy, « Lorsque deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux sera mort sans enfant, la femme du mort n'en épousera point d'autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femme et suscitera des enfants à son frère, et il donnera le nom de son frère à l'aîné des fils qu'il aura d'elle, afin que le nom de son frère ne se perde point dans Israël. » On voit que cette idée est à la fois le souci de la transmission du nom et le souci de la conservation du patrimoine. Et dans le cas Genèse 6-10, que j'évoquais, chapitre 38, 6, 10, qui était le cas des fils de Judas. C'est un passage très important, puisque Judas fit épouser à Er, son fils aîné, une fille nommée Tamar. Ce Er, fils aîné de Judas, fut un très méchant homme, et le Seigneur le frappa de mort. Judas dit donc à Onan, son deuxième fils, « Épousez la femme de votre frère et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants à votre frère. » Onan, voyant la femme de son frère aîné et sachant que les enfants qui naîtraient d'elle ne seraient pas à lui, empêchait par une action exécrable qu'elle devint mère, de peur que ses enfants ne portassent le nom de son frère. C'est pourquoi le Seigneur le frappa de mort, parce qu'il faisait une chose détestable. Et donc, le crime d'Onan et la condamnation du Solitary Sex, comme dit le titre d'un livre d'un collègue américain, trouve là, dans à la fois le péché donnant, une sexualité sans enfantement, mais aussi, ou sans fécondation, mais aussi le fait de ne pas respecter ce commandement qui est d'épouser la femme du frère mort pour perpétuer le nom, la lignée et le patrimoine, sont donc deux éléments vétérotestamentaire qui fondait le refus de l'annulation. Et il ajoute Henri VIII, qui est en quelque sorte la condamnation de lui-même, il ajoute que non seulement le pape, qui était en ce cas-là Jules II, avait donné une dispense pour le mariage en 1509 entre lui et Catherine, mais qu'aussi, même face à sa propre argumentation, le pape, qui est vice-elios, a tout pouvoir pour récuser. On est donc dans une... Et on retrouverait, mais nous n'avons plus le temps, mais d'autres moments de la pièce dans laquelle le roi est celui qui énonce les raisons chrétiennes, entendons catholiques, de sa propre condamnation. Et on retrouvera ici ce que je disais sur l'impossibilité d'un roi proférant des propos hérétiques, mais d'un roi à qui Calderón met dans la bouche les propos les plus orthodoxes qui dénoncent son hérésie ou sa faute. La dernière scène est une scène intéressante parce qu'elle est un exemple chez Calderón de la condensation des événements. On y voit la chute de Woolsey, qui a eu lieu effectivement en 1529 et sa mort en 1530. Il a été dénoncé par Anne Boleyn, à laquelle il demandait une rétribution pour l'avoir aidé à accéder au trône. Et dans le texte de Calderón, il annonce ce suicide en se jetant dans le vide, que rien, alors que chez Shakespeare, il meurt de maladie ou d'épuisement dans un couvent qu'il a recueilli. Simplement, on voit ici comment certains dramaturges exploitent les chroniques ou les histoires qui leur servent de fondement, parce que dans le texte de Rivadeneira, on trouve la mention « On dit que Wolsey, pour ne pas se voir tomber dans le déshonneur, s'était donné la mort avec du poison, con hierbas. » Là, ce ne sont pas des hierbas, c'est le fait qu'il se jette dans le vide. Et Rivadeneira ne reprenait pas, comme une vérité historique, ce suicide de Woolsey. Mais dans une dramatisation, Calderón suit, en la transformant, cette mort que Woolsey se donne à lui-même. Le deuxième événement, c'est la mort de Catalina, de Catherine d'Aragon, qui est contemporaine. Alors, comme je l'ai dit, elle meurt seulement en 1536. Et là aussi, Calderón va exploiter un détail, mais qui n'était pas repris comme une vérité historique par Rivadeneira, lorsqu'il disait « La reine, dans une douleur et tristesse de cœur qui ne cessait jamais, mourut, non sans que ne fût suspecté son empoisonnement. No sin sospecha de veneno. » Et donc, dans ce cas-là, c'est Anne Boleyn qui demande au roi d'avoir le courrier qu'il a reçu de Catherine et qu'il va lui envoyer et qui y met le veneno, le poison qui va tuer Catherine. Donc c'est intéressant puisque c'est une utilisation anhistorique d'une source historique où des propos rapportés, mais qui ne sont pas assumés par l'historien Rivadeneira, deviennent des éléments qui dramatisent une reine empoisonnée et un mauvais conseiller suicidé. Le troisième élément qui est mis en contemporanéité, c'est la chute d'Anne Boleyn elle-même, qui, alors qu'elle est arrêtée en 1536, là, quelques mois après la mort de Catherine, mais sans rapport d'un fait avec l'autre, et là où elle est condamnée par le roi pour adultère, inceste et haute trahison, et elle est décapitée le 19 mai 1536. Et là, dans la pièce de Calderón, c'est un événement qui vient synchroniquement avec les deux premiers, puisque le roi qui a entendu une conversation, le roi caché, qui entend une conversation entre Charles et Anne, qui trouve une lettre de Anne Boleyn disant son amour pour l'ambassadeur français, la fait arrêter et la fait condamner. Et le quatrième, et je termine avec ça, fait qui est mis en synchronie, c'est le couronnement de Marie, la fille de Catherine, qui était née en 1516, alors qui, lui, est une réalité tout à fait inventée par Calderón, puisque plusieurs fois, dans des actes de succession successifs, le roi Henri VIII avait fait déclarer Marie illégitime. Elle avait donc écarté de toute possibilité d'accès au trône. C'est le premier acte de succession de 1533, le second acte de 1536 qui, du coup, dans ce cas-là, écarte aussi Élisabeth, la fille de la traîtresse Anne Boleyn, et donc laisse comme seul héritier légitime le fils de Jane Seymour, la troisième épouse d'Henri VIII, c'est-à-dire Édouard. Et ce n'est qu'en 1544 que les deux filles, celle de Catherine, Marie, celle d'Élisabeth, celle de Anne Boleyn, Élisabeth, sont réintroduites dans un ordre de la succession, sous la pression d'ailleurs de Jeanne Seymour, de Catherine Parr, la dernière épouse d'Henri VIII, et qui souhaitait une sorte de réconciliation. Et donc, c'est pour cela que l'ordre de succession va devenir, de fait, à la mort de Henri VIII, Édouard VI, le fils de Jeanne Seymour, puis Marie, la fille de Catherine d'Aragon, puis Élisabeth, la fille de Anne Boleyn. Mais il y a là une réalité historique totalement inventée, ce couronnement, mais qui a un effet dramatique puissant, puisqu'il y a simultanéité entre l'exécution d'Anne Boleyn, la luthérienne, et le couronnement supposé de Marie, la catholique. Et je vais terminer avec cette lecture, puisque la didascalie qui décrit ce qu'on voit sur la scène est la suivante. C'est un couronnement qui est en fait un serment d'allégeance du royaume à Marie, et elle-même prétend un serment au principe fondateur du royaume. On entend les clairons, et autant de gens que possible entrent pour le serment. Le roi et la princesse, donc le roi Henri VIII, la princesse Marie, fille de Catherine, montent sur le trône, au pied duquel, au lieu du coussin, doit se trouver le corps d'Anne Boleyn, couvert d'un taffetas. On la découvre une fois qu'ils sont assis. C'est donc l'inversion de la scène où le malheureux Henri VIII portait sur sa tête la lettre de Luther et foulait aux pieds la lettre du pape, puisqu'ici, sur le sommet du trône, il y a Marie, la catholique, et qu'à ses pieds, il y a Anne Boleyn, la luthérienne. Donc on a ici un effet puissant d'inversion d'une inversion, et qui clôt en quelque sorte avec la pièce, la figure inverse de ce qui l'ouvrait. Et d'autre part, on a ce que dit le capitaine, et qui est une sorte de bouleversement, de réécriture de l'histoire. Henri, roi très chrétien, chez qui la couronne anglaise, alors qu'elle est si grande, se montre petite pour ses mérites, dans le but de satisfaire le peuple, monstre qui pense que la reine Catherine n'était pas reine légitime, donc du coup, Henri VIII pense que la reine était légitime, mais il était trop tard pour le reconnaître, et c'est le peuple, la populace monstrueuse qui continue en cette fausse pensée. Aujourd'hui, à Marie, sa fille, infante et Notre-Dame, son unique héritière, veut prêter serment d'allégeance, obéissant la noblesse d'Angleterre et les chevaliers rassemblés à Londres pour y accomplir ce geste héroïque, et la désigne pour être leur roi, leur chef universel, dans les deux droits, et prononce serment d'allégeance. C'est donc là une vision extravagante du point de vue chronologique, mais tout à fait puissante du point de vue d'une pièce catholique et espagnole sur le schisme d'Angleterre, dans laquelle Marie devient l'unique héritière, alors qu'à l'époque supposée des fêtes, elle est complètement déshéritée et illégitime, et que, d'autre part, ce qui est à l'œuvre, c'est la restauration catholique du royaume, puisqu'elle prête ce serment, mais avec une sorte de, pour recevoir le serment du royaume et des grands, mais avec une restriction mentale qui fait que est annoncé ainsi ce que sera la politique de Marie Tudor, Bloody Mary, Marie la sanglante, c'est-à-dire une politique catholique qui va multiplier, évidemment, les arrestations et les exécutions des protestants. Et donc, du coup, va faire la matière d'une des sources de Shakespeare, qui est le Book of Martyrs de Fox, publié en 1563. Et dans la pièce de Calderon, la fin est la suivante. Ce que déclare Marie, ce qui importe, c'est que nous obéissions humblement à l'Église. Et moi, prostré à terre, obéissante, je renonce à toute promesse humaine que l'on me fera s'il doit m'en coûter de nier la vraie foi. Alors le roi lui dit, personne ici ne nie la loi. Certains de ses commandements, oui, il cherche un accommodement avec ce qu'il a fait Et ce que Marie veut, désire, comme catholique fervente. Thomas Boleyn lui déclare, qui est survécu à la mort de sa fille, « Que votre majesté modère la pensée de son Altesse, dit-il au roi, où le royaume ne peut jurer. Il fera bien et saura que... » Alors Marie dit, « Il fera bien de ne pas jurer et saura que celui qui me prête serment, pour manquer ensuite à mes lois, si je ne le brûle pas vif, c'est pour qu'il fasse repentance. » Et finalement, il y a ce moment où le capitaine dit « Le roi prête serment ?»« Oui, car notre roi l'ordonne », répondent-ils tous. Thomas Boleyn s'adresse à Marie dans les conditions spécifiées, c'est-à-dire ce respect, finalement, de ce que la réforme a établi, et elle répond « Je les accepte, mais en aparté, sin ellas, sans elles. » Et donc, du coup, on termine sur un paradoxe, évidemment pour un public qui, en 1627, sait que cette restauration par Marie du catholicisme en Angleterre n'aura été qu'éphémère, puisqu'elle vient sur le trône en 1553 et elle meurt en 1558. Il y a donc, à la fin de cette pièce, ce paradoxe entre, d'un côté, la réparation de l'ignorance du roi docte, mais égaré par sa passion qui est Henri VIII et qui trouve dans sa fille, devenue unique héritière et restauratrice du catholicisme, ce qui pour lui était impossible à réparer et restaurer à travers même son remords ou son repentir. Et de fait, comme je le disais, la politique catholique de Marie Tudor à partir de 1553 va effacer ce que Henri VIII avait fait, et donc du coup restauré ce qu'il avait lui effacé. Le mariage d'Henri et de Catherine est légitimé rétroactivement. Elle-même va épouser Philippe II d'Espagne et va persécuter violemment les protestants. Et donc, du coup, par exemple, Thomas Cromwell va être une des victimes de Marie Tudor et vont être restaurés brièvement en Angleterre ce qui avait été effacé par la réforme, les dévotions catholiques, les images dans les églises, les autels, les monastères et les chantries, c'est-à-dire les petits oratoires. Donc on a une politique, effectivement, qui correspond à cet désir, cette volonté, cette exaltation catholique que Calderón attribue dans la pièce à Marie, dans des conditions historiques qu'il invente complètement. Mais en même temps, comme je le disais, le public espagnol de 1627 sait que la restauration n'aura été qu'éphémère. Marie mort en 1558 et celle qui lui succède, Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn, elle va retourner à l'orthodoxie nouvelle de la Church of England et au protestantisme qui la porte. Du coup, on retrouverait in fine chez Calderón, avec aussi cette inversion par rapport à la fin d'Henri VIII de Shakespeare, c'est la prédication ou la prophétie de Cranmer annonçant Élisabeth. La fin de la pièce chez Calderón de la Barca, c'est ce couronnement, ce serment de Marie annonçant son règne. Mais ce que l'on retrouverait parallèlement dans les deux pièces, c'est le fait que dans la pièce de Calderón de la Barca, avec cette tension entre ce qui est annoncé par Marie et ce qui est de fait advenu, une restauration mais rapidement effacé, on retrouverait, me semble-t-il, ce jeu des dramaturges avec les deux temps que j'évoquais. Il y a aussi le temps cyclique chez Calderón, avec le pouvoir et la chute de Wolsey. Mais on retrouve surtout cette tension entre le temps des intentions, y compris celles de Marie, qui sont toujours fragiles, vulnérables, reversibles, et d'autre part, le temps de la Providence, qui, lui, est un mystère inconnu, indéchiffrable, et qui exerce ses volontés indépendamment de la perception que l'on peut en avoir les acteurs humains, ce qui est une possibilité du coup, de réinstaller la monarchie du roi très chrétien, celle d'Espagne, dans des desseins de la Providence qui la protège, mais sans pour autant nécessairement que ces desseins soient déchiffrables par l'histoire que font les individus. Donc voilà cette comparaison que je voulais proposer aujourd'hui.